France Culture.
Les nuits de France Culture.
Il faut l'avouer, la cryptozoologie a mauvaise presse. On s'imagine des pseudo-scientifiques se proclamant zoologues, courant fiévreusement après des ombres et des créatures chimériques. Après tout, ils n'ont toujours pas prouvé l'existence du Yéti, ou donné une preuve, aussi maigre soit-elle, de l'existence du monstre du Loch Ness. Ce que l'on oublie pourtant de rappeler, c'est que ces légendes connues dans le monde entier n'occupent qu'un périmètre très réduit de la cryptozoologie. Cette dernière est plutôt une méthode de recherche, qui s'appuie effectivement sur des témoignages oraux, des légendes et des données ethnologiques, pour tenter de découvrir des espèces encore inconnues, mais qui n'ont pour la plupart aucune caractéristique extraordinaire. En réalité, la méthode d'investigation développée par les cryptozoologues a permis de mettre à jour de nombreuses espèces que l'on pensait disparues ou même fabriquées de toutes pièces. Le varan du Komodo, par exemple, avant sa découverte officielle en 1912, était connu des navigateurs arabes, qui y voyaient un véritable dragon mythologique. C'est donc sur cette discipline, à la marge de la science, mais non sans mérite, que revient ce quatrième de 5 épisodes de la série « Les animaux fantastiques » de Jacques Cogé, pour le cabinet de Curiosité, avec le biologiste et sociologue des sciences Benoît Grison et l'ethnologue Jean-Loïc Lokielec. Une émission réalisée par Malika Mesgache est diffusée pour la première fois le 26 février 1998 sur France Culture.
Passons maintenant du jardin zoologique de la réalité au jardin zoologique des mythes, dont la faune n'est pas de lions, mais de sphinx et de griffons et de centaures. La population de ce deuxième jardin devrait excéder celle du premier, puisqu'un monstre n'est pas autre chose qu'une combinaison d'éléments d'être réel, et que les possibilités de l'art combinatoire frisent l'infini. Ainsi, nous pourrions produire, il nous semble, un nombre indéfini de monstres, combinaisons de poissons, d'oiseaux et de reptiles, sans autre limite que la lassitude ou le dégoût. Cela pourtant n'arrive pas. Nos monstres naîtraient morts, grâce à Dieu. Jorge Luis Borges, Margarito Guerrero, préface au Livre des êtres imaginaires, 1954.
Les animaux fantastiques, aujourd'hui aux marges de la science officielle. Passé le temps du Moyen-Âge, il faut bien reconnaître que les créatures fantastiques sorties tout droit de notre imagination, de l'âne pape de Martin Luther au marsupilami d'André Franquin, ont certes connu un succès d'estime, mais en rien comparable à ce qui a pu faire la réputation de leurs prestigieux ancêtres comme la sirène ou le dragon. Question d'époque, de milieu, de culture, sans doute tout cela à la fois dans la mesure où nous savons bien aujourd'hui que ces monstres improbables ne peuvent habiter que notre imaginaire, puisque comme le rappelait Borges, ces êtres seraient privés de vie dès leur naissance. Bref, nous n'y croyons plus, et les nouvelles technologies auront beau faire, l'heure est au désenchantement. Pourquoi alors ne pas se tourner vers la nature et chercher parmi les milliers et les milliers d'espèces encore inconnues à ce jour quelques bizarreries à la fois étranges et fascinantes qui pourraient remplacer nos bons vieux monstres d'antan et exciter tout autant notre curiosité? Reste bien sûr à dénicher les quelques élus, mais partant du principe que si l'animal n'a pas encore été démasqué, rien ne prouve qu'il n'existe pas, tous les espoirs sont permis, d'autant que les cryptozoologues sont là pour nous aider, Benoît Grison.
Un cryptozoologue, c'est un zoologiste qui se veut être un zoologiste normal, mais qui a comme domaine d'investigation des organismes animaux supposé inconnu, décrit souvent de manière baroque par les témoins locaux, mais qui recèle peut-être de véritables mystères systématiques au sein des dossiers qui leur sont consacrés. Autrement dit, cryptozoologues, en utilisant des indices, des textes, des témoignages fiables et en éliminant les canulars et les contrefaçons diverses, essaient de reconstituer un portrait robot plausible d'un animal peut-être inconnu. Sachant qu'il y a beaucoup de déchets dans les données qui traitent la cryptozoologie.
Est-ce que c'est plus une méthode d'investigation ou une sous-discipline de la zoologie classique ?
Moi, je crois que si la cryptozoologie a un avenir, c'est en tant que méthode d'investigation. C'est-à-dire que ce type de méthode indiciaire, de paradigme indiciaire, est employé aussi par d'autres biologistes qui ne croient pas professionnellement faire la cryptozoologie. Je ne parle pas des paléontologues, mais je parle par exemple de certains archéozoologues qui étudient des animaux subfossiles. Bon, vous savez que l'île d'Amsterdam, près de la Réunion, était supposée recéler un canard endémique jusqu'au XVIIe siècle. Eh bien, les archéozoologues ont réuni tous les textes de témoins de l'époque, notamment concernant l'écologie, qui aurait été de marécage, etc., de ce canard. Et puis, quand ils ont reconstitué le portrait robot et les mœurs supposées de ce canard, ils ont été chercher les ossements dans les marécages de l'île d'Amsterdam. Et ils ont trouvé les ossements. Eh bien, voilà une méthode indiciaire, un paradigme indiciaire, typiquement cryptozoologique. Donc, moi, je ne vois pas la cryptozoologie comme une sous-discipline constituée de la zoologie. Je la vois plutôt comme une méthode qui peut marcher dans le cas de certains organismes un petit peu élusifs, comme disent les anglo-saxons, soit en voie d'extinction, hein, en bout de course génétique, soit parce qu'on les a beaucoup mythifiés et qu'on a du mal à les faire rentrer dans les catégories occidentales de la zoologie.
Et le terme apparaît quand ?
Le terme cryptozoologie est apparu en 1957 sous la plume d'un zoologiste et agronome français qui s'appelait Lucien Blancoux et qui était un disciple de Bernard Heuvelmans. Mais la pratique de la cryptozoologie, non baptisée comme telle, remonte, je dirais, aux années 40. Le premier à avoir fait la cryptozoologie avec un bagage zoologique académique et sérieux, c'est un Allemand, Ingo Kumbigel, qui a publié un petit livre sur les espèces supposées inconnues, d'ailleurs un livre dans une optique assez sceptique. Et ensuite, en 1955, Bernard Heuvelmans a écrit un livre qui est devenu un classique du genre, sur la piste des baies ignorées, où il abordait de manière ouverte, et là aussi avec une formation de zoologue académique, des dossiers qui sont devenus classiques, mais qui sont toujours aussi problématiques, comme celui du Yeti, celui de certains monstres lacustres, etc.
Bernard Heuvelmans au micro de Jacques Chancel le 12 septembre 1980.
Mes collègues scientifiques pouvaient me considérer comme un joyeux fantaisiste. C'était le cas autrefois, avant que je ne m'occupe moi-même de ces problèmes. Ils étaient toujours regardés avec un certain mépris ou un petit sourire. Mais je me suis acharné et pendant 30 ans, j'ai donc forgé petit à petit une méthode de recherche pour une science nouvelle que j'ai appelée la cryptozoologie, c'est-à-dire la science des animaux cachés. Et j'ai développé cela dans mes différents ouvrages que j'ai publiés. Et petit à petit, j'ai eu de plus en plus de supports de collègues et de collègues les plus éminents.
Benoît Grison, ce qui nous intéresse ici, c'est l'existence ou non d'animaux dits fantastiques, c'est-à-dire des animaux qui relèvent de l'imaginaire, et d'une certaine manière, la cryptozoologie va participer de cette recherche. Mais est-ce que, à côté donc de ces animaux fantastiques, le travail quotidien de la cryptozoologie, c'est pas aussi de chercher des espèces réelles ?
Les 9 dixièmes des organismes dont les cryptozoologues ont dressé les portraits robots après avoir émondé les données selon l'approche que j'ai définie tout à l'heure sont des organismes qui ne feront pas frémir le grand public, c'est-à-dire cervidés inconnus, rongeurs inconnus, etc. Ou bien, par exemple, des oiseaux insulaires en voie de disparition, mais qui seraient encore vivants. Autrement dit, il y a un décalage entre la perception publique de la cryptozoologie, chasseur de monstres, et puis la majorité des dossiers cryptozoologiques vraisemblables qui sont relatifs à des organismes qui suscitent très, très peu de fantasmes et qui, visiblement, s'ils existent, en suscitent très peu de la part des autochtones qui les ont observés. Donc, il y a d'un côté la cryptozoologie, je dirais, telle qu'on l'aperçoit dans le public, le monstre du Loch Ness, le Yeti, l'Almasti, l'homme sauvage du Caucase. Et de l'autre côté, vous avez la cryptozoologie qui suppose, à travers des indices forts, parfois même matériels, des poils, etc., l'existence d'un rongeur inconnu en Éthiopie, qui présuppose pendant longtemps l'existence d'ongulés inconnus dans le nord-ouest du Vietnam, dans le parc national du Vukong, et qui finit par les découvrir. Bon, on a découvert 3 ongulés comme ça avec cette méthode indiciaire ces 10 dernières années. Bon, à cette cryptozoologie-là, Elle est la plus ferme, la plus crédible scientifiquement, mais elle est aussi la moins vulgarisée.
Et est-ce qu'on trouve de réels animaux fantastiques ?
Rarement, justement. Bon, on peut envisager que certains animaux fantastiques peuvent être trouvés, parce que tout animal réel, tout organisme réel est sujet à des fantasmes. Bon, le gorille, avant sa découverte, était décrit comme un violeur, enleveur de femmes, etc., une sorte d'homme sauvage. Quand on décrit le yéti de cette façon, en soi, ça ne rend pas le dossier du yéti rédhibitoire, on peut dire. C'est des catégories populaires, c'est des fantasmes qui sont projetés sur un grand anthropoïde inconnu. Que l'on soit convaincu ou pas de l'existence du yéti. D'autre part, des animaux banals comme l'hyène, par exemple, par leur trait de comportement, là aussi suscitent des fantasmes. L'hyène, longtemps, les naturalistes antiques disaient qu'elle changeait de sexe. Pourquoi ? Bah, tout simplement, et ça, un zoologue anglais dans les années 30 l'a très bien étudié, un dénommé Pocock, Reginald Pocock, la femelle de l'hyène a un clitoris particulièrement long, qui donne l'impression d'un pénis, en fait, c'est un pseudo-pénis. Et bien entendu, pour un observateur naïf, entre guillemets, avec des catégories non scientifiques, on ne pouvait penser qu'une chose, à savoir que l'hyène avait un sexe réversible, qu'elle pouvait effectivement changer à volonté de sexualité. Donc, voyez, on peut considérer comme compatible avec l'existence d'un organisme qui est décrit de manière assez baroque, certains traits qui pourraient être fantasmatiques. Le fait d'un processus de mythification. Mais bien entendu, la plupart des animaux mythiques n'existent pas.
A contrario, est-ce que la cryptozoologie ne permet pas aussi, avec le savoir zoologique dont on dispose aujourd'hui, d'aller relire un certain nombre de textes anciens pour expliquer ce que les anciens ont décrit ? Je pense notamment à Hérodote, qui était géographe au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui décrit des serpents ailés qui migrent en Arabie, en Égypte, au début du printemps. Et peut-être qu'aujourd'hui, on en aurait l'explication.
Oui, alors là, c'est un cas limite. Bon, il est très rare que les animaux mythologiques s'expliquent effectivement de façon simple par une cause naturelle, je dirais, et purement zoologique. Dans le cas, effectivement, des serpents ailés qui migrent à certaines périodes, etc., qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la période de migration qui est décrite dans les textes anciens, pas seulement chez Hérodote, correspond tout à fait aux périodes d'invasion du criquet migrateur et aux aires grégarigènes. Donc, il s'agit là d'une métaphore, parce qu'effectivement, quand vous voyez une aire grégarigène remplie sur le sol qui, d'un coup, prend son envol, on a l'impression d'un serpent de feu. Parce que les criquets, quand ils deviennent grégaires et qu'ils s'agrègent, changent de couleur, deviennent rouges, et ensuite forment un nuage qui est ondulant et qui donne l'impression d'un grand serpent. Donc là, une métaphore qui visiblement a donné cette expression de serpent ailé qui a été prise parfois à la lettre par des auteurs ultérieurs, notamment médiévaux. Mais c'est très très rare qu'on puisse expliquer après coup, de manière très rationaliste comme ça, de manière rétrospective, un animal mythologique.
Et aujourd'hui, on cherche encore le griffon, la licorne, la sirène, le dragon.
Oui, mais on les cherchera longtemps encore parce que là, justement, il s'agit de véritables patchworks d'un point de vue zoologique. Et c'est avant tout des constructions culturelles, des symboles qui d'ailleurs n'ont pas la même signification selon les cultures. Bon, ça c'est clair. Par contre, on peut très bien, et c'est un autre exemple, après celui des serpents ailés, découvrir les fourmis géantes d'Hérodote et de Néarque qui étaient censées vivre à la frontière indo-pakistanaise actuelle et déterrées dans leur galerie de l'or. Bon, il se trouve que Néarque dit, contrairement à Hérodote, que ces fourmis avaient de la fourrure. Bon. Or, on sait très bien maintenant quelle était la région. Bon, c'est un plateau indo-pakistanais. Et ce plateau indo-pakistanais est effectivement truffé de filons aurifères et aussi criblé de galeries de marmottes. Et effectivement, les marmottes qui se déplacent donc dans ce plateau à travers leurs galeries font ressortir des sables aurifères. Bon. Là, l'explication est assez crédible, là aussi, en termes rationnels. Mais la plupart du temps, les animaux mythologiques ne sont pas explicables de façon naturaliste. Par contre, ils ont emprunté au cours de l'histoire, qui est la leur, des traits à des animaux réels. Bon, bien sûr, la licorne, la canine du narval, au départ, le rhinocéros indien, oui. Mais c'est tellement plus de choses, la licorne. C'est avant tout un objet culturel.
Et le dragon ?
Alors, le dragon, je dirais que c'est complètement non du ressort du naturaliste.
Lorsque le régiment des hussards de Kienmayer arriva le 21 dans le voisinage de Przemysl, un hussard se détacha pour chasser. Il rencontra dans la forêt un animal inconnu et d'une forme extraordinaire, qui dévorait le cadavre d'un homme. Le hussard, dont le fusil était chargé à balles, tira sur cet animal, et le coup qui porta à la tête l'étourdit si bien que le chasseur put l'achever du second coup. En l'examinant de plus près, il reconnut que ce monstre ressemblait parfaitement à celui qui est suspendu par des chaînes devant l'hôtel de ville de Brunn et qui fut tué en Moravie il y a 200 ans. Il a de longueur une toise de Vienne. Il est quadrupède, mais il a deux ailes membraneuses de la grandeur et de la forme d'un parapluie et la gueule d'un crocodile. En un mot, il répond à la description que l'on donne du dragon. Lettre postée de Lemberg en Ukraine et publiée par le compilateur des nouvelles nationales politiques et littéraires du samedi 24 Messidor en 13.
Moi je dirais que le dragon a été naturalisé en Europe.
Jean-Louis Lequelec.
Dans un double sens du mot naturalisé, c'est-à-dire qu'on trouve effectivement des dragons naturalisés au sens de empaillés, et puis naturalisés au sens où cet animal mythique, tout à fait culturel, inexistant à nos yeux, a été rendu naturel pendant des siècles. On l'a considéré comme un animal réel, un animal vivant dans nos régions. Où il a été tué. On a des tas de témoignages de gens qui racontent comment ils ont tué un dragon, que c'était très difficile, et comment en témoigne encore le vestige du dragon qui a été empaillé, naturalisé, et qu'on a conservé dans tel endroit. De nombreuses églises de France conservent de tels dragons naturalisés, accrochés au mur, et qui témoignent de l'existence passée de ce monstre qui terrorisait la région, qui dévorait les jeunes filles, et jusqu'à ce qu'un jour un beau chevalier arrive, ou un prisonnier condamné à mort se rachète en tuant le monstre.
Alors on a des témoignages visuels jusqu'au XIXe siècle, on a donc des preuves matérielles, c'est-à-dire des dragons empaillés, mais d'où viennent ces dragons ?
Alors évidemment, ces dragons sont là, on peut encore les voir dans certaines églises, comme par exemple à Oiron, dans les Deux-Sèvres, mais il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup en France, il y en a en Italie, il y en a en Allemagne, il y en a un peu dans toute l'Europe de l'Ouest. Et quand on rentre dans ces églises, eh bien, on voit effectivement accrochés au mur de magnifiques crocodiles du Nil, qui ont été rapportés au XVIe siècle en général, et qui ont été empaillés, effectivement, accrochés, qui parfois ont des vertus médicinales, que les gens vont gratter pour récupérer un peu de poussière, pour soigner les maladies de peau ou autres, mais qui sont toujours là, et qui ont été utilisés pour accréditer une légende locale du dragon.
Mais c'est quand même assez paradoxal, parce que les légendes de dragons, c'est Saint-Michel, Saint-Georges, Sainte-Marthe, etc., ça fait référence quand même à un passé très ancien. Or, ces dragons naturalisés, c'est beaucoup plus récent.
Oui, mais je pense qu'il y a là quelque chose d'assez fréquent, finalement. On a affaire à un mythe. Le dragon, c'est un animal mythique, mais ce n'est qu'un exemple. On pourrait suivre le même exemple avec d'autres animaux mythiques qui est là, qui vit dans les mythes. Et puis, un jour, on découvre un animal inconnu jusqu'alors dans la région où ce mythe circule. Et puis, d'un seul coup, il illustre parfaitement le mythe. Lorsqu'on lit les descriptions du dragon, on a des détails de type naturaliste. On nous dit le dragon a une grande mâchoire, mais il n'est pas si dangereux que ça par sa mâchoire, il est surtout dangereux par sa queue, qui peut balayer des villes entières. Et quand on compare ça avec les premières descriptions de véritables crocodiles observées par les premiers observateurs de crocodiles, ils nous disent que, certes, le crocodile a une grande mâchoire, mais qu'elle n'est pas si dangereuse parce qu'il n'a pas de force dans sa mâchoire, que toute la force du crocodile réside dans sa queue. Mais on dit la même chose du cocadrille. Donc, il y a d'autres points communs. On nous dit que le seul point sensible dans toute la carapace, c'est un animal invincible. Les lances se brisent, les balles se brisent sur cet animal, sauf au ventre. Au ventre sont là des écailles blanches, translucides, très sensibles. C'est tout à fait le cas pour le dragon et c'est tout à fait le cas pour le crocodile. On peut dresser comme ça une série de caractéristiques naturalistes du dragon qui sont les mêmes que celles qu'on a prêtées au crocodile. Et donc, l'existence du crocodile et la découverte du crocodile a réactivé le mythe du dragon et l'a localisé à proximité.
Benoît Grison, dans le cas du dragon, la preuve est bien faite que nous sommes dans le folklore. Mais d'une manière plus générale, est-ce que les grands dossiers qu'aborde la cryptozoologie et les dossiers connus du public ne se relèvent pas aussi du folklore ?
D'une certaine manière, oui, mais au sens ethnozoologique, c'est-à-dire que certains animaux cryptozoologiques peuvent s'avérer ne pas exister et être un folklore au sens courant du terme, c'est-à-dire, pour le naturaliste, l'agglutination d'un certain nombre de traits d'animaux existants en un animal fantastique inexistant. Mais dans d'autres cas, il peut s'agir d'un folklore au sens plus large, c'est-à-dire des fantasmes ou des catégories culturelles non savantes projetées, plaquées sur un organisme qui a des caractéristiques de comportement ou d'anatomie bizarre et que la science ne connaît pas encore. Bon, c'est évident que, par exemple, le varan de Komodo, on sait maintenant, on a des textes de géographes arabes, qu'avant d'être découvert en 1912 par un aviateur accidenté sur l'île de Komodo, il était connu des navigateurs arabes qui le désignaient comme un dragon, qui le faisaient rentrer dans cette catégorie non scientifique, issue de leur culture moyen-orientale. Donc, tout le problème est de savoir, quand on a affaire à un animal composite, purement folklorique, ou un animal qui est perçu à travers les loupes déformantes du fantasme, parce qu'on fantasme sur tous les organismes, même ceux qui sont bien connus, et de catégories culturelles non savantes qui sont à traduire en catégories savantes.
Alors prenons l'exemple du Yéti, l'abominable homme des neiges, qu'on connaît bien, puisque Hergé en a parlé. Le Yéti, c'est quoi? C'est un mythe? C'est du folklore? C'est une réalité biologique?
Tout ça. C'est-à-dire que le Yéti, on peut dire qu'il n'y a qu'une quarantaine de témoignages qui tiennent la route, à la fois parce qu'ils ont été recueillis dans de bonnes conditions, que les témoins sont des gens qui n'avaient pas trop intérêt à raconter des histoires, que ces témoignages se recoupent entre eux à des décennies ou à des kilomètres de distance, etc. etc. Bon. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui ressort si cet être existe? C'est qu'on décrit non pas une sorte de croque-mitaine, comme souvent dans le folklore népalais ou tibétain, mais un animal qui serait un anthropoïde d'à peu près 1,40 m, qui aurait une tendance à la bipédie, mais qui, en cas de panique, se mettrait à courir à quatre pattes, qui ressemblerait beaucoup à un orang-outan.
Nous avons demandé à M. René de Milleville de venir avec nous. Pourquoi? Eh bien parce que M. René de Milleville a passé plusieurs années au Népal, il a été responsable là-bas du département des vols de la compagnie Royal Nepal Airlines, pendant plus de 3 ans, et il nous a ramené une documentation extrêmement intéressante sur le Yéti. Alors, Monsieur Milleville.
Eh bien oui, l'année dernière, au mois de juillet, dans la région du Mont-Everest, une jeune Sherpani de 19 ans gardait un petit troupeau de 4 à 5 yaks à une altitude de 4500 mètres. Alors, elle a d'abord entendu par 3 fois un sifflement très violent, mais encore assez lointain. Et puis, après quelques instants, un autre sifflement, et pratiquement au même moment, elle s'est trouvée jetée dans la rivière par un animal qu'elle a immédiatement reconnu comme étant un yéti, parce que d'abord elle a vu son visage de très près, et elle a eu le temps de sentir une odeur puante et nauséabonde. C'est la première fois que le yéti attaquait, pas trop méchamment, un homme, parce qu'il voulait manger les yaks qui étaient à côté. Le yéti mange en effet de la viande, des petites souris, des rats et... Il a tué 3 yaks sur 5. Il en a dévoré un presque complètement qui était le plus petit. Et il a sucé le sang des 2 autres.
Mais il y a quand même un point d'achoppement purement naturaliste. C'est que le Yéti a laissé des traces qui peuvent toujours être contestées. Mais dans les traces, on a trouvé des poils qui ont été analysés. D'autre part, il a laissé des excréments à proximité des mêmes pistes qui ont été analysées. Et voilà les résultats des analyses. D'un côté, les poils, ils ont été analysés par un mammologiste très spécialisé en trichologie, comme on dit, la science des poils, pour les spécialistes des mammifères, Michel Tranier, du Muséum d'Histoire Naturelle, qui est décédé depuis peu, hélas, qui était un farouche opposant de la cryptozoologie et de l'idée même d'une telle méthode, et qui a dû conclure que c'était bien un poil de mammifère, primo, secondo, que c'était un poil de primate, tertio, un poil d'anthropoïde non anomalique, ressemblant beaucoup à celui de l'orang-outan, mais n'étant pas celui de l'orang. Je précise qu'il avait toute une touffe de poils, pas de poils isolés. Bien. D'autre part, les excréments ont donné lieu à des analyses et on y a découvert des parasites de vairons inconnus. Or, comme il y a une règle quasi générale en biologie qui est celle de la spécificité parasitaire, c'est-à-dire qu'un parasite d'une espèce donnée, en général, dans le cas de ces vers, ne parasite qu'un animal d'une espèce donnée. Voilà, à travers les poils et les excréments, la possibilité qui se dessine que les témoignages sincères ne soient pas filtrés par une rationalisation à outrance, mais se réfèrent bien, peut-être, à un singe anthropoïde inconnu. Qui vivrait non pas dans les neiges, mais dans des forêts denses de Malionéa et de rhododendrons de l'Himalaya.
Il y a quand même un problème, parce qu'à propos du Yéti, on a effectivement des traces, on a des récits de Sherpa, on a même des scalps, des dépouilles dans certaines lamasseries. Bon, il a été prouvé...
Les scalps, ce sont des faux. Hein.
Oui, il a été prouvé que tout cela a été bidon. Alors, le seul argument qui tient la route sont ces poils. Mais les poils ont une histoire compliquée, on les perd, celui qui les analyse est mort, il n'y a pas de publication scientifique sur le sujet. Bon, bien tout sûr. Ça fait un peu rocambolesque.
Oui, bien sûr, mais ça l'est. C'est-à-dire que... Quand on parle cryptozoologie, on parle d'un domaine marginal. Et là, il y a des pressions sociologiques qui sont énormes. C'est-à-dire que Tranier n'avait pas du tout envie de publier là-dessus, non pas parce que c'était un sujet honteux, mais pour lui, c'était un sujet anecdotique. Bon. Mais peut-être, à l'échelle de l'histoire des sciences, que dans quelques décennies, on réévaluera cette histoire du Yéti comme on réévalue maintenant les histoires d'hommes sauvages velus et kidnappeurs de femmes d'Afrique occidentale du XVIIe siècle en disant c'est le gorille. On dira peut-être c'est l'orang-outan terrestre des montagnes de l'Himalaya.
Le problème quand même avec le Yéti, c'est qu'on le cherche, on le traque même, oui. Et on le trouve pas.
Oui, mais il faut dire que d'abord, et là aussi on est dans un rapport qui est toujours celui à ces domaines, dans une relation de sensationnalisme à cet objet de recherche. C'est-à-dire que les gens qui le traquent ne sont pas les naturalistes qui sont intéressés par ça, qui ne trouvent pas les moyens de le faire. Ce sont en général des journalistes ou des cinéastes qui veulent faire un remake de Tintin au Tibet un petit peu facile, un peu sensationnaliste, encore une fois. Mais il n'y a jamais eu d'expédition sérieuse sur le Yéti. Pour une raison simple, on a toujours été le chercher dans la neige. Il est évident qu'un grand primate comme ça ne trouverait pas sa subsistance et suffisamment de ressources alimentaires d'un point de vue énergétique dans un milieu neigeux. Et tous les témoignages montrent qu'en fait, il laisserait des empreintes quand ils passent d'une forêt dense à une autre. Bien. Donc, il faudrait les chercher dans ces forêts denses, qu'on n'a jamais fait. D'autre part, ces forêts denses sont très difficiles à pénétrer. On progresse d'un peu près 10 mètres en 3 à 4 heures à la machette, donc ça pose un problème. S'il y a vraiment un singe inconnu dans ces forêts, il a tout le temps de vous entendre quand vous débitez à coups de machette les branches de magnolia ou de rhododendron qui sont entrecroisées. Il faut bien dire aussi qu'un des rares biologistes qui soit penché sur la question sur le terrain, Cronin, qui a trouvé des empreintes crédibles, et lui-même d'ailleurs était assez effarouché de devoir raconter ça parce que ça faisait sensationnel, et qui est un grand spécialiste de la faune de l'Himalaya, disait que justement le problème du Yéti, s'il existe, c'est qu'il a un habitat assez peu accessible et que de toute façon, on n'a pas tenté d'aller y chercher le Yéti.
Benoît Grison, est-ce que la crédibilité du Yéti pour une partie de la communauté scientifique n'est pas aussi liée au fait qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers d'années, il y a eu un primate, qu'on appelle le Gigantopithecus, qui vivait effectivement en Asie et qui pourrait être un lointain ascendant du Yéti?
Absolument. Bon, le Gigantopithèque était un animal qui est le plus grand singe anthropoïde qui ait jamais vécu, semble-t-il. On aura peut-être des surprises un jour au niveau des découvertes de fossiles. C'était un singe qui, dans le cas de l'espèce chinoise, dépassait les 2 mètres. Et dans le cas de l'espèce indienne, faisait entre 1,80 m et 2 mètres. Bon. Alors, c'est clair que l'aire de distribution qui est connue paléontologiquement du Gigantopithèque indien et chinois recoupe l'aire de distribution actuelle des témoignages de Yéti qui existent aussi en Chine. Et alors, on pourrait très bien supposer que sa biogéographie soit encore un peu restreinte, fragmentée, qu'il soit remonté un peu plus haut dans les massifs montagneux, comme beaucoup d'ailleurs de représentants de la faune du Pléistocène himalayen. Pourquoi pas? C'est possible. Il y a une hypothèse qui est encore beaucoup plus crédible, bien que celle du Gigantopithèque le soit, parce que le Gigantopithèque s'est éteint il y a 20 000 ans. Donc c'est la porte à côté d'un point de vue géologique. C'est celle de l'orang-outan terrestre. Bon, l'orang-outan terrestre nous ramène dans la même catégorie d'hypothèses que le Gigantopithèque, on le sait maintenant, à travers des analyses de ses protéines osseuses, était une sorte d'orang-outan démesuré. Bon. Mais il y avait l'orang-outan terrestre, qui était plus grand que l'orang-outan des îles de la Sonde et plus petit que le Gigantopithèque, qui vivait, lui, exactement dans l'habitat qui est supposé être celui du Yéti actuel, et qui s'est éteint aussi il y a une vingtaine de milliers d'années. Et à travers des annales d'histoire naturelle chinoise, on peut penser qu'il s'en est maintenu des poches jusqu'à il y a 1000 ans, disons. Bon. Donc là, on se rapprocherait d'une crédibilité maximale.
«
Les animaux fantastiques aux marges de la science officielle, avec aujourd'hui la participation de Benoît Grison, biologiste, et de Jean-Louis Lequellec, ethnologue. Texte dit par Catherine Laborde, documentation INA, Martine Auger, Xavier Carrère, le cabinet de curiosité, Sylvain Barassetti, Bernard Charon, Malika Mesgache, Jacques Cogé.
C'était le quatrième de cinq épisodes de la série « Les animaux fantastiques » de Jacques Cogé pour le cabinet de curiosité, diffusé pour la première fois le 26 février 1998 sur France Culture. À suivre.